moitié timbrée du Mbujimayi au Kassai oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'être de nôtre dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Le 12 septembre de chaque année, le monde célèbre la journée des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud. Cette journée vise à encourager les pays du Sud à collaborer entre eux en vue de faire reculer la faim, la pauvreté et les autres maux des sociétés. Quel regard portez-vous sur la coopération au développement entre la RDC et les autres pays du Sud? Composez les 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Vous pouvez aussi nous rejoindre à notre adresse pa@radiocapi.net et vous avez également la possibilité de nous déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci de votre fidélité. Les pays en développement s'inspirent les uns des autres pour trouver des solutions novatrices aux problèmes pressants qu'ils rencontrent en matière de développement grâce au programme de versement d'aide Bolsa Familia. Par exemple, le Brésil a réussi à améliorer la nutrition et l'éducation des enfants et le système a été transposé avec succès en Afrique. En Inde, par exemple, avec le programme de garantie de l'emploi rural, chaque famille rurale du pays a tous les ans droit à 100 jours d'emploi. Et il y a tant d'autres progrès qu'on a pu enregistrer ici et là. Nous avons notre invité en ligne, professeur Sari Blaise Ngoy, qui est expert en économie internationale. Bonjour, professeur.
Bonjour, monsieur.
Alors, d'entrée des jeux, qu'est-ce qu'on peut comprendre? En quoi consiste concrètement la coopération Sud-Sud?
Bien, la coopération Sud-Sud, si nous remontons à sa naissance, elle est partie de la conférence de Bruxelles dans les années 70, afin de remettre en cause le caractère de lien, de coopération qui liait les pays appelés du Sud par rapport aux pays du Nord. Ainsi, le concept de coopération Sud-Sud est né. Il est né, c'était en fait dans le but, si vous voulez, de réduire davantage la dépendance en matière de l'aide au développement, en matière donc de transfert de technologie, en matière donc aussi de savoir-faire. C'est ainsi que ces pays appelés du Sud, à travers donc la conférence de Bruxelles, se sont réunis et ils ont établi ensemble, si vous voulez, un cadre de rencontre qui permettrait de renforcer les liens par rapport aux pays dits industrialisés, aux pays développés. Voilà ce que je peux vous donner comme définition pour l'homme.
Oui, professeur, quel regard aujourd'hui peut-on porter sur la coopération au développement entre la RDC et les autres pays du Sud?
Bien, merci beaucoup. Je dois vous dire tout de suite que le concept même Sud disparaît de plus en plus, l'ensemble de ce bloc appelé les pays du Sud a éclaté. Il éclate à partir du moment où on parle davantage de la globalisation des économies. C'est-à-dire que l'ancienne division internationale du travail qui caractérisait plus ou moins les pays du Sud, producteurs de matières premières par rapport aux pays industrialisés, disparaît. La globalisation permet aujourd'hui finalement d'introduire un nouveau concept qu'on appelle la nouvelle division internationale du travail. Donc le Sud n'existe presque plus. Il existe, si vous voulez, plusieurs catégories de pays. Les pays émergents, les pays à revenus intermédiaires, mais aussi dans le Sud, l'ancien Sud, il y a des pays les moins avancés. C'est là où nous situons. Qu'est-ce que le Congo tire de la coopération Sud-Sud? Là, il faut finalement voir qui sont en fait les acteurs qui se disent encore du Sud et qui finalement cherche à coopérer davantage avec les autres pays. Vous avez en fait tout ce qu'on appelle les pays émergents. Vous avez l'Inde, le Brésil, le Mexique, l'Argentine, la Russie même. Et ici, vous avez aussi les pays du Moyen-Orient, notamment l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Soudan, qui en fait possèdent déjà dans leur programme de développement des aides tournées vers les pays du Sud. En Afrique, vous avez aussi l'Afrique du Sud qui participe à cette coopération-là. Qu'est-ce que le Congo peut tirer comme avantage? L'avantage, c'est qu'on pouvait dire qu'il y aurait peut-être un meilleur transfert des ressources financières, mais aussi un meilleur transfert de savoir-faire, un meilleur transfert aussi, si vous voulez, des aides, ressources financières, comme je dis, mais aussi de la technologie. Bien, est-ce que cela, ça s'est fait? Les études ont été menées pour prouver finalement que, en dépit de ce nouveau cadre de coopération, appelons-le du Sud-Sud, la technique de transfert, du savoir-faire, des ressources financières, reste la même. Donc, il n'y a pas tellement une différence à établir entre coopération Nord-Sud et coopération Sud-Sud dans sa réalisation. Le Congo tire quoi? Le Congo, c'est un pays, comme je le dis toujours, un pays qui tend la main, qui n'a pas de ressources et qui espère que ce pays lui vienne en aide. Eh bien, si nous pouvons diversifier ces acteurs, c'est déjà une bonne chose. La diversification permettrait à ce que nous puissions peut-être avoir des ressources un peu diversifiées si les pays du Nord ont tendance à réduire constamment leurs aides. Et c'est le cas actuellement avec l'Union européenne, avec la France, la Belgique et surtout les États-Unis qui réduisent de plus en plus le volume de l'aide. Et donc, si nous pouvons tendre vers les autres pays, eh bien, mais est-ce que le volume qui s'est réduit est remplacé par un autre volume plus important? Ça, c'est autre chose. Et même ce volume plus important, il vient finalement se greffer sur quoi? Quel genre de projet de développement qui permettrait à ce que nous puissions en tirer réellement bénéfice? Voilà, en fait, le débat.
Oui.
C'est celui-là.
Oui, alors, professeur, aujourd'hui, c'est vrai, d'aucuns pensent que quand on parle de la coopération Sud-Sud, c'est pratiquement le rendez-vous du donner et du recevoir. Nous, en fait, on a comme l'impression, en tout cas l'impression de certains observateurs, que la République démocratique du Congo évolue toujours en tendant la main vers les autres pays.
Exact, c'est exact. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que nous pouvons donner aux autres dans ce cadre de coopération? On a imaginé qu'en créant les regroupements sous-régionaux et régionaux, peut-être que là-dedans, nous en tirerons de meilleurs résultats, nous donnerons aussi. Ce que nous donnons aux autres, c'est quoi? C'est notre espace. Notre espace, c'est-à-dire le sol, le sous-sol, la forêt, l'eau, etc. Voilà ce que les autres viennent tirer chez nous. Mais en même temps aussi, parce que nous ne produisons rien, eh bien, ils permettent ces pays, donc, se permettent, si vous voulez, de venir occuper l'espace que les industriels congolais pouvaient occuper, c'est-à-dire le marché intérieur. Vous n'avez qu'à voir, en fait, le volume des importations par rapport à notre volume des exportations. C'est-à-dire, nous importons devant. Donc, si nous importons, eh bien, c'est peut-être ça que nous donnons aux autres, mais ils en tirent grandement profit parce que ce sont les devises qui sortent. Ce sont les devises qui sortent, et donc, le marché de consommation s'élargit au Congo. Eh bien, dans ces conditions-là, ils se disent, nous allons en tirer profit. C'est le cas, par exemple, de l'Inde, c'est le cas du Pakistan, c'est le cas aussi de la Chine, et même de l'Afrique du Sud, qui est devenue un de nos partenaires. Voilà ce que nous donnons. Nous offrons le marché intérieur, qui est, si vous voulez, inoccupé par les industriels congolais. Qu'est-ce que les autres tirent comme profit? D'abord, le fait que nos devises sortent, vont, parce que nous importons, c'est en fait le profit des autres, mais en même temps aussi, ils viennent tirer profit de nos matières premières. Dans ces conditions-là, il y a quand même une inégalité. C'est ce que nous pouvons dire. Pourquoi je disais tout à l'heure que si nous considérons les relations Nord-Sud de l'époque, qui étaient des relations inégales, eh bien, jusqu'à ce jour, nous pouvons aussi dire que la nouvelle coopération Sud-Sud, elle s'établit aussi dans un contexte d'inégalité. Et le Congo, est-ce qu'il est perdant? Bon, oui, je peux dire ainsi. Je peux dire ainsi, il est perdant parce que c'est que les autres tirent, c'est quand même un plus grand avantage par rapport à nous. Prenez le cas, par exemple, des contrats chinois. Des estimations faites sont telles que les industriels chinois dans le secteur minier pourront tirer entre 36 et 96 milliards de dollars d'ici quelques années de leur investissement minier au Congo, contre les 3 milliards que nous attendons comme aide au développement. Donc voilà un peu ce que je peux appeler une égalité.
Voilà, avant d'accorder la parole aux auditeurs, hein, encore vos propos, professeur, on retient que la RDC ne tire pas profit de cette coopération Sud-Sud, dans bien des cas.
Dans bien des cas, oui, je viens de vous dire que sur le plan de diversification d'acteurs, c'est peut-être, apparemment, on dit on attire un profit. Mais prenez le cas concret, par exemple, de la coopération Chine-Congo. Nous sommes là en train de contempler ce que je peux appeler, si vous voulez, des constructions, des routes, des ponts passés par là. Mais c'est ce qu'on appelle, en fait, coopération usine clé à main. Aussitôt partis les Chinois, ces outils vont, si vous voulez, être usés au bout du temps. Sommes-nous capables de refaire la même chose ou nous serons obligés de nouveau d'aller tendre la main? Donc vous ne voyez pas que les avantages que nous avons actuellement sont des avantages, si vous voulez, passagers, qui en fait qui ne sont pas durables. Voilà.
081-800-93-15 pour votre intervention en direct. Vous pouvez aussi nous rejoindre à notre adresse pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Nous prenons le premier auditeur en ligne, Franklin, qui est à Bukavu. Franklin, bonjour.
Bonjour, cher. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Bonjour à notre invité.
Voilà, le 12 septembre de chaque année, le monde célèbre la journée des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud. Alors cette journée, comme l'a dit le professeur d'ailleurs, vise à encourager les pays du Sud à collaborer entre eux en vue de faire reculer la faim, la pauvreté et les autres maux de nos sociétés. Alors que regard portez-vous sur la coopération au développement entre la RDC et les autres pays du Sud?
Merci beaucoup. Je pense que la coopération, c'est vraiment une bonne chose parce que le monde d'aujourd'hui est devenu comme un village planétaire. Mais moi, je voudrais dire seulement que la base de tout développement, c'est l'État. Là où l'État n'est pas rigoureux dans la gestion, il ne faut même pas s'attendre au développement, même si vous êtes dans des coopérations. C'est le cas aujourd'hui de la RDC, notre État. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes d'abord rigoureux dans la gestion pour que cette coopération puisse nous profiter? Je pense non. Aujourd'hui, on peut être dans plusieurs organisations, mais il faut savoir notre organisation interne, comment elle est structurée, pour s'attendre à quelque chose dans ces organisations-là. Deuxième problème. Tout programme de développement nécessite une précision sur les chronogrammes. Mais en RDC, qu'est-ce que nous constatons? C'est comme si nos autorités sont en train de gouverner par des improvisations. Ce sont les improvisations qui dominent. Parce que vous allez vous souvenir, il est dit, tout programme de développement, le chef de développement, c'est le chef de la planification. Et le chef de la planification, c'est la planification elle-même. Donc, nous, au niveau de la RDC, nous ne planifions pas, nous ne savons pas qu'est-ce que nous devons mener. Il y a des pays dans la coopération sud-sud qui ont des visions, vision 2020, vision 2025. Mais nous, au niveau de la RDC, quelle est notre vision? Par exemple, en 2020, qu'est-ce que nous voulons devenir, nous? En fait, nous gérons sans un chronogramme de développement. Ça aussi, c'est aussi ce que nous indiquons. Mais il y a aussi un problème pour le cas de la RDC, c'est toutes ces instabilités politiques et sécuritaires. On ne peut pas programmer une action à mener pendant un certain temps. Et pourtant, on sait que nous, à cette époque-là, peut-être des cas de sécurité, des cas d'instabilité politique peuvent surgir. Moi, je pense que c'est ça là le problème. Il y a aussi le problème, et là, les dettes que nous contractons. J'avais suivi un jour l'ancien premier ministre qui peut dire que la RDC ne s'est jamais dotée d'un budget de développement. C'est ça, c'est le budget seulement de consommation que la RDC se donne. Et c'est ça, cela. Pouvons-nous nous attendre vraiment à un développement? Moi, je pense qu'aujourd'hui, au lieu de s'attendre, on s'est trop orienté sur les secteurs minimes. Mais moi, je pense aujourd'hui, il faut deux choses. Il faut s'orienter agricole et instaurer une bonne gouvernance dans la gestion de la chose publique pour espérer si réellement nous pouvons profiter de ça. Mais la coopération est une bonne chose, mais nous, au niveau de la RDC, nous ne tirons pas profit parce que nous-mêmes, au niveau interne, nous ne sommes pas un État rigoureux dans la gestion de la chose publique. Voilà ce que je voudrais contribuer pour l'émission d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Franklin. Et nous retenons une chose, vous insistez pour que dans la politique nationale, qu'on ait quand même des chronogrammes de développement, des projets de développement. Il faut qu'on évite de l'improvisation parce que la planification, c'est l'échelle du développement. Et vous avez reconnu que la situation de l'insécurité dans l'est du pays peut également être à la base parfois de manque de chronogramme ou encore de planification. Et l'absence notamment d'un budget de développement peut être aussi cette source de frein au développement. Et vous proposez qu'on puisse encourager le développement dans le secteur agricole. Merci beaucoup, Franklin, d'avoir appelé. Nous prenons Jean-Pierre qui est à Kinshasa. Bonjour, Jean-Pierre.
Bonjour, bonjour, Piero et le Médou.
Jean-Pierre, vous avez la parole.
Ah oui, merci. Moi, dans ce sujet, je voudrais m'aborder dans les défenses. Je trouve que Tout ce que nous débattons avec nos amis, c'est ce que fait la une des émissions de la radio occasion. Sur le sujet, nous avons débattu ce sujet avec mon ami qui est en Benjamin et Pierrot. Et aujourd'hui, je retrouve l'émission sur les ondes de Radio Okapi. C'est un grand privilège pour moi. Moi, je voudrais que l'État congolais prenne aussi des mesures qui s'imposent. L'État congolais doit faire en sorte que quand il y a un chronogramme établi, que nous allons faire ceci, nous allons faire cela pour le développement de notre pays, il faut qu'il y ait des suivis pour que cela puisse bien marcher. Nous voyons aussi, dans notre pays, on se base toujours sur le minerai. C'est ça aussi la priorité de notre gouvernement. Mais ce n'est pas toujours le minerai qui régénère beaucoup de recettes. Nous allons nous sommes censés aussi beaucoup plus investir dans l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est la priorité des priorités. Comment peut-on prétendre à un développement que nous sommes importeurs de tout, sauf rien, en République démocratique du Congo? Nous importons presque rien. Nous ne sommes pas capables de produire et consommer nos produits de nous-mêmes. Et ça, c'est déplorable pour nous. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Jean-Pierre, d'avoir appelé. Nous prenons Crispin qui est à Kisangani. Crispin, bonjour.
Bonjour, Gérard, et bonjour à tous les autres auditeurs de la radio.
Vous avez la parole, Crispin.
Ok, merci. Je suis parfaitement d'accord avec l'invité qui est au studio. Comme lui, je crois également que nous, la RDC, nous ne vivons pas cette coopération sud-sud, ou quoi je dis. Comme vous l'avez dit vous-même aussi, je ne crois pas que vous puissiez espérer les retours et pourtant vous n'avez rien à donner. Et ça, je ne crois pas. La RDC, nous ne produisons presque plus, que ce soit dans le secteur agricole. Bon, dans le petit secteur minier où nous avons vraiment des potentialités, on voit un peu une négligence et peut-être, je dirais, un égoïsme dans les chefs de nos autorités, dans le traitement des dossiers miniers. Bien qu'on a parlé des lois sur le secteur minier, le quoi tout concerne, mais tout ça ne change toujours rien, parce qu'il n'y a pas encore une volonté affichée politique dans les chefs de nos autorités. Parce que avoir les choses sur le terrain, on comprend qu'ils tiennent beaucoup sur leurs intérêts privés, leurs pourcentages, au lieu de tenir sur
Crispin, je vous coupe tout de suite parce que même notre invité l'a reconnu, l'adhésion de la RDC à plusieurs organisations de la région et même de la sous-région dans les cadres de coopération, que ce soit régionale ou sous-régionale. Ça, c'est une volonté manifeste de pouvoir quand même aller au développement et aussi participer à cette coopération sud-sud.
Oui, JR, je crois que cette coopération sud-sud, c'est les transferts, comme vous avez dit, même de la technologie, de quoi, mais avoir, par exemple, le secteur minier, si on pouvait passer à un transfert de technologies, de quoi, ça pouvait se faire à travers l'implantation des industries, par exemple, des raffinages, ici, sur place. Comme ça, on pouvait engager aussi des Congolais à l'intérieur et qu'il y ait réellement transfert, mais avoir les choses, par exemple, comme les Chinois. Vous verrez beaucoup là, ils sont à très exploités. Ils n'exploitent qu'à des petites unités et non même des industries implantées. Et qu'est-ce qu'on bénéficie? Rien. Ils partent avec le quoi et c'est comme ça. Alors je ne dirais pas qu'il y a échange, nous gagnons. Parce qu'ils partiront et un jour nous resterons comme ça, comme s'il n'y avait rien même là où ils ont exploité.
Merci beaucoup.
Mais là, c'est rien de rien.
Voilà, merci beaucoup, Crispin. On va prendre Franck, il est à Vienne, en Autriche. Peut-être il a un autre saut des cloches. Franck, bonjour.
Bonjour Monsieur Gère, bonjour à l'invité et aussi à tous les compatriotes congolais avec qui nous échangeons sur vos ondes.
Voilà, vous avez la parole Franck, après avoir suivi vos prédécesseurs.
Je vous en prie, merci. Allô?
Oui, allô Franck, j'ai dit, vous avez la parole après avoir suivi vos prédécesseurs.
Je vous en prie pour la parole. La coopération sud-sud, c'est l'un des aspects de la coopération des pays en voie de développement. Et ce sont des initiatives à recommander, mais seulement parfois cette coopération sud-sud a de la peine pour prendre de l'envol, car on le constate avec regret que certains pays du sud sont utilisés comme tremplin de déstabilisation pour les autres. Alors, vu sur cet aspect, la coopération sud-sud sert parfois là comme écueil pour le développement de certains pays du sud. Je crois que le vœu de tous les habitants du sud ou de cet espace serait de voir les mêmes pays coopérer main dans la main pour promouvoir leur développement. Mais là aussi, nous devons le dire pour le cas de la RDC, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, qu'est-ce que nous bénéficions dans cette coopération? Sinon, le fait de voir qu'il y en a qui se servent de nous pour se développer et ils nous laissent dans l'état où ils nous ont trouvés. Et je crois que ce sont des initiatives à encourager, mais encore faudra-t-il que ça puisse vraiment être bien canalisé afin que les retombées soient bénéfiques pour les uns et les autres.
Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé. Nous prenons Pascal qui est en Boujimaï. Bonjour, Pascal.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Votre point de vue, Pascal.
Oui, merci beaucoup pour l'invitation, en fait. Et j'aimerais d'abord revenir sur ce que vous avez dit, le fait que la RDC a adhéré à plusieurs organisations, cela témoigne d'une manifestation politique. Non, là, je vais justement répliquer en disant que le fait de marier plusieurs femmes que tu ne prends pas en charge, ce n'est pas un fait de responsabilité, plutôt d'irresponsabilité. Et deuxièmement, la coopération sud-sud, bon, moi je comprends ça dans le sens mathématique. Quand vous prenez un pauvre plus un pauvre, ne donne jamais un riche. Vous savez, moi je suis internationaliste de formation, j'ai toujours compris toutes ces coopérations entre les pays sous-développés comme une sorte de consolation entre eux-mêmes. En fait, vous voyez, même les développements aujourd'hui que nous prenons d'exemple du Brésil, ce n'est pas une coopération sud-sud, mais plutôt une coopération nord-sud. Donc, pour vous développer dans une coopération qui peut demain matin accoucher à une intégration, vous devrez nécessairement coopérer avec les gens qui ont quand même quelques facteurs intégrateurs. Pourquoi je le dis cela? Parce que si un État aujourd'hui, par exemple, veut s'intégrer, veut coopérer avec les États faibles, donc en fait, au sein desquels il ne trouve pas les éléments intégrateurs, vraiment, ça sera une coopération sans intérêt. Et pourtant que vous êtes sans ignorer que les États sont des monstres froids qui n'ont ni amis ni ennemis, uniquement leurs intérêts à défendre. Si aujourd'hui la RDC, qui est considérée comme les réservoirs des matières premières, et aussi les réservoirs des produits finis, la RDC produit ce qu'il ne consomme même pas et consomme ce que la RDC ne produit pas. Vraiment, c'est un paradoxe en relations internationales. Donc, d'où cette coopération sud-sud, j'espère et je pense qu'elle ne peut jamais accoucher à quelque chose de bon. Soit prématuré, soit à un mort-né entre les États.
Oui, Pascal, encore vos propos, vous mettez l'accent sur la coopération économique, mais il y a tant d'autres coopérations à laquelle la RDC a adhéré.
Non,
par exemple, la coopération dans le secteur de la santé.
Le facteur économique n'est pas l'unique facteur intégrateur entre les relations.
Tout à fait. Tout à fait, parce qu'au niveau de la santé.
A tous les atouts possibles pour son développement au niveau ou sur la scène africaine. Mais ce qui est paradoxal, c'est que la RDC aujourd'hui est considérée comme un éléphant qui a tous les atouts possibles lui donner par la nature, mais ne sait pas capitaliser ses potentialités pour son développement. Si aujourd'hui nous voulons que la RDC soit un État puissant, la puissance est toujours relationnelle, n'est pas autarcique. Mais la RDC, c'est un pays formé et impuissant du fait qu'il n'arrive même pas à capitaliser ses potentialités et les mettre en œuvre dans ses relations avec les autres. Alors c'est ainsi que quand les autres États viennent vers la RDC, c'est pour profiter donc tout ce que la RDC possède, et non le contraire. Donc la RDC ne tire rien comme profit. Là, j'adhère même au point de vue émis par le professeur. Je comprends que la RDC est en train de tisser des coopérations asymétriques
et ne sait pas ce qu'elle fait dans ses relations. Au contraire, ces relations-là se retournent même contre la RDC, contre les intérêts de la RDC. Nous devons, nous aujourd'hui, population, de jouer un rôle très important sur la scène internationale pour que notre pays puisse récupérer son image d'antan. Mm-hmm. Et sinon, nous allons seulement dire que la RDC a adhéré à telle organisation, mais au retour, il n'y a pas de feedback, il n'y a pas de relations sans intérêt en relations internationales.
Merci beaucoup, Pascal, d'avoir appelé de Mbujimayi. Jonas, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. C'est Jonas Otto de Kananga.
Voilà, avec vous, on va terminer cette première série des auditeurs pour revenir à notre invité, professeur Sari Blaise Ngoy. Votre point de vue, Jonas?
Oui, journaliste, je suis sceptique, pas plus en train de suivre beaucoup de choses sur l'antenne là. Nous ne devons pas croire que le développement viendra de l'extérieur. Non, ce n'est pas vrai. Le développement en soi doit commencer par les Congolais. J'aborde les sujets du jour. J'affirme que la coopération sud-sud, moi-même je trouve que c'est une nouvelle formule que les grandes puissances ont utilisée pour commencer par manipuler les États impuissants. Et pourquoi je dis ça? Je prends la conférence internationale sur le Grand Lac. Là, je prends le volet politique. Voyez tout ce qui se passe dans cette conférence-là. C'est comme si c'est une voie qu'on est en train d'ouvrir. Et là, je vois les pays qui est en face de nous, le Rwanda. C'est comme si les grandes puissances sont en train d'utiliser ces petits pays-là, non, la coopération sud-sud, pour commencer par nous déstabiliser. J'ai une question à poser à notre invité. Qu'est-ce qu'il peut me répondre avec l'affirmation telle que la coopération sud-sud est hypothétique, car les grandes puissances ne donnent pas des opportunités aux pays du Sud de décoller? Pourquoi j'ai dit ça? Je prends le contrat des Chinois et les Congolais. Vous voyez ce que nous avons. On pensait que dans ce contrat, les Chinois pouvaient nous apporter plus d'emplois. Je suis ici à Kananga, nous voyons que les Chinois nous ont apporté même les chauffeurs, ce qui est grave. Et la deuxième question, j'aimerais un peu demander, quel est l'impact de cette coopération, de la coopération sud-sud, bien sûr, dans un pays qui ne produit rien? Prenons le cas de la RDC ne produit pas quelque chose, ne vend rien à l'extérieur. Tout ce que nous mangeons dans ce pays vient de l'extérieur. Quel est l'impact de cette coopération sud-sud? Et j'ai conclu pour dire que s'il n'y a pas cette volonté-là de la part de nos autorités, tout ce que nous allons signer un milliard de coopération pour ne même pas avoir un résultat satisfaisant. Je vous remercie.
081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Professeur Sari Blaise Ngoy, vous êtes avec nous en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Voilà, alors vous avez suivi les uns les autres, en commençant par Jean-Pierre, et Franck, Pascal, et Franklin de Bukavu et Jonas. Vous avez sûrement retenu leurs préoccupations. Que répondez-vous aux uns aux autres?
Merci beaucoup. Hein. La première préoccupation de notre ami qui est à Bukavu, c'est en fait le plan,
le chronogramme, voilà, la planification.
Mm-hmm. Bien, les plans existent. Parfois avec les chronogrammes. J'ai personnellement travaillé au ministère de la Coopération ici à Kinshasa, au ministère des Affaires étrangères. J'ai eu beaucoup de contacts avec les collègues qui sont au ministère du plan. L'agriculture, il y a autant de plans, de chronogrammes et de priorités définis sur papier. Je leur dis bien sur papier.
Il y a le DSRP, il y a le PEV,
oui, le programme élargi. Ces plans existent, PEV, bien oui. Définis par des experts, etc. Mais je voudrais signifier qu'il y a actuellement le concept des projets inutiles et des projets utiles. Il y a beaucoup de projets inutiles. Beaucoup de projets inutiles qui n'ont pas un impact. Ou alors qui ont un impact, mais qui ne sont même pas entrepris. Qui ont été définis sur papier, et ça se limite là-bas. Et à un moment donné, le temps passe. Dernièrement, vous avez suivi, il y a eu une petite évaluation au niveau du ministère des Finances et du Plan. On a constaté que les plans, les programmes, les projets financés par les institutions de Bretton Woods sont exécutés à plus ou moins 37%, si je ne me trompe pas, par rapport aux engagements. Donc, il y a là le problème réel entre engagement et décaissement. Ça, c'est un. Deux. Il y a aussi une difficulté, une faiblesse, c'est celle-ci. Il n'existe pas en fait, dans les ministères, comme les amis l'ont dit tout à l'heure, il n'existe pas dans les ministères des services chargés de management des projets, c'est-à-dire chargés de suivre au quotidien, de gérer au quotidien, le suivi et l'évaluation et de dire le projet est terminé, voici son impact. Ça n'existe pas. J'ai cru que peut-être au ministère du Plan, cela existait, je suis allé là-bas, il n'y en a pas. C'est sur papier. Aucun expert congolais n'est sur le terrain, envoyé à l'intérieur dans des projets pour dire, allez nous rendre des comptes, allez nous faire voir qu'est-ce qui est exécuté, qu'est-ce qui n'est pas exécuté.
Mm-hmm.
Quand j'étais au ministère des Affaires étrangères, comme conseiller, arrive au moment où il fallait renouveler la convention de coopération avec la Belgique. Je pose le problème. Mais nous allons renouveler la convention et évaluons d'abord ce qui a été fait pendant 5 ans. Il a été prévu 200 millions d'euros. Qu'est-ce qui a été fait? Eh bien, quelle a été la réponse? L'évaluation ne va pas se faire. Si vous voulez faire l'évaluation, suivez en Belgique. Eh bien, en Belgique, 2 jours, vous allez évaluer des projets de terrain. On vous demande de suivre en Belgique pour évaluer pendant 2 jours ce qui a été fait pendant 5 ans et à travers toute la République, cela est impossible. Donc ça, c'est vrai. Il y a des plans, il y a des programmes, il y a des priorités qui sont définies, mais l'exécution sur le terrain acquise des faiblesses. Les moyens conséquents acquisent aussi les faiblesses énormes. Et donc, l'autre préoccupation, c'était, je parle de l'adhésion à plusieurs organisations sous-régionales, etc. Dans les théories de l'intégration économique, nous parlons des effets spaghetti. Vous voyez, quand vous avez un plat de spaghetti, eh bien, vous ne savez pas, quand vous le prenez comme ça, vous avez autant de têtes de spaghetti qui tombent dans la bouche, et vous ne savez pas que... Voilà. C'est effet de mode. On y adhère parce que tout le monde y est. Donc, il faut être présent, hein, marquer la présence, même s'il n'y a pas effectivement un impact décisif. C'est ça. Nous y adhérons, mais prenez le cas, je parle de l'économie, nous avons SADC, COMESA, etc.,
mm-hmm.
autant de réunions qui se tiennent à Kinshasa ou ailleurs. Eh bien, où sont les effets? Il n'y en a pas. Pourquoi? Comme un des intervenants l'a
dit... Oui, un des auditeurs.
Un des auditeurs l'a dit, à partir du moment où vous avez, au niveau du gouvernement, des gouvernants, si vous voulez, cette absence de volonté réelle de faire quelque chose, eh bien, vous n'obtiendrez pas de résultats.
Oui, mais
J'ai été conseiller dans plusieurs ministères, je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a ce qui est visible, mais quand vous entrez dedans, vous vous rendez compte que parfois on tourne hein, les pouces.
Oui,
voilà.
oui, professeur Pascal a taxé cette coopération de coopération asymétrique.
Oui, bon, asymétrique, c'est-à-dire, on parle de la géométrie variable. Je voudrais lui dire que les critiques ne manquent pas. Il y a eu déjà plusieurs rencontres pour essayer d'harmoniser les politiques de coopération au développement. Au niveau des régions, mais même au niveau des gestions de Bretton Woods, les membres du Club de Paris se sont réunis en 2005. Et il y a toutes les 3 années des réunions qui se suivent pour voir où est-ce qu'on en est. Et dès que les participants aux réunions se réunissent, ils retournent chez eux. Un point, c'est tout. Il n'y a pas que les officiels. Même les organisations non gouvernementales impliquées dedans sont invitées. La réunion d'Accra, par exemple, avait réuni plus de 1800 participants. Donc, coopération, comme les autres l'ont dit, oui, ça nous colle à la peau partout. Même dans les pays du Nord, il y a la coopération Nord-Nord. Eh bien, la coopération Sud-Sud n'a pas été, comme un intervenant l'a dit, n'a pas été imposée par les pays du Nord, non. C'est finalement les pays du Sud eux-mêmes qui ont commencé à critiquer la coopération Nord-Sud et qui se sont dit, mettons-nous ensemble, peut-être nous allons avoir de meilleurs résultats. Mais ce n'est pas le cas. Et comme un autre intervenant l'a dit, eh bien, le rendez-vous des donnants-donnants en termes de coopération, Sud-Sud n'existe pas. Qu'est-ce que le Congo pourrait tirer comme avantage? Si dans le cas où, par exemple, il y aurait une véritable coopération avec l'Inde, avec la Chine, avec le Brésil, etc., dans le domaine des transferts réels du savoir-faire, transferts réels des ressources, mais en même temps, une coopération qui tient compte, si vous voulez, des besoins des populations locales, eh bien, on pourrait espérer quelque chose. Mais pour le moment, vous devez vous rendre compte que la coopération, je vais vous préciser, elle suit l'axe Bas-Congo, Kinshasa. Et elle va vers l'est, hein, en suivant l'axe de Sud-Kivu, Maniema et quoi ça, et Nord-Kivu.
Et Nord-Kivu.
Le reste du pays est dans le vide. Vous allez dans le reste des provinces, Bandundu, Équateur, Kasaï Oriental, Occidental, il n'y a rien de coopérant, il n'y en a pas. Un jour, j'étais avec un coopérant belge qui disait, mais nous aimons le Kivu parce que le climat, il est très beau, il est doux, on y va. Donc, c'est comme si c'était un peu de tourisme. Et donc, vous comprenez, c'est que quelque part, là, les coopérants, quand ils viennent, ils choisissent les lieux où ils peuvent partir. Et on a pu constater qu'ils sont très nombreux dans les centres-villes.
Voilà, professeur, nous avons Clément qui est à Matadi, Willy à Kolwezi. On va leur accorder la parole. Clément, bonjour.
Merci.
Bonjour, monsieur JR.
Votre point de vue.
Merci, je suis en train de suivre. D'ailleurs, il y a mes prédécesseurs qui ont vraiment avancé ce que je voulais développer. Mais néanmoins, c'est que moi, je remarque que notre pays doit définir une politique réelle pour la relance de notre économie. C'est-à-dire, ils doivent être vraiment plus objectifs, voir quelles sont les priorités pour que notre économie soit relancée. Et au lieu de se tourner uniquement dans les taxes, des impôts et consorts. Donc je crois que le politique doit essayer de revoir où...
Oui, mais Clément, l'économie en soi n'est pas le seul facteur intégrateur. Vous avez suivi d'ailleurs Pascal qui l'a dit, il y a également d'autres secteurs aussi.
Oui, bien sûr, sur tous les plans. Et puis, il y a aussi la protection de nos potentiels en évitant le pillage de nos ressources naturelles. C'est pas avec des mains là ombrageuses qui manipulent parfois nos compatriotes au niveau du pays. Donc, nous devons être capables à protéger nos potentiels, nos ressources naturelles en évitant les gaspillages par le pillage. Ensuite, comme je l'avais dit, comme s'il y a un manque d'efficacité, d'objectivité dans l'engagement de notre pays dans différents contrats. Et c'est ce qui entraîne parfois, nous entendons parler des contrats léonais, la révisitation des contrats. Alors nous ne comprenons pas pourquoi ces contrats, une fois signés, et après on va encore révisiter, ré-signer, je ne sais pas... Et tout ça, et ça présente comme s'il y a un manque d'efficacité dans tout ce que nous engageons dans différents contrats. Mmh. Et pour terminer, j'ai des préoccupations à poser à notre invité là-bas.
Alors, oui, allez-y, allez-y.
Savoir, quelle est la coopération qui est plus avantageuse actuellement pour notre pays? Est-ce que c'est la coopération nord-sud
ou la coopération sud-sud?
Et ensuite... s'il peut nous définir qu'est-ce que les contrats lyonnais et quelles sont les causes qui font que chaque fois que nous avons signé des contrats, par après, on passe par la révisitation de tous ces contrats.
Merci beaucoup, Clément. Nous prenons Willy. Willy, vous êtes à Kolwezi. Bonjour.
Oui, bonjour, Gérard.
Vous avez la parole.
Oui, effectivement, je n'ai aucun intervenir par rapport à cette émission, dans le sens que toutes les coopérations que la RDC signe avec d'autres pays ou d'autres organisations, c'est bien les biens doivent apprécier. Ben, je ne pourrais pas entamer ce qui est apparaissant sur le plan économique. Moi, j'ai parlé sur le volet, par exemple, de la population congolaise vis-à-vis de ce pays signataire de toutes ces coopérations-là. Prenons, par exemple, ce qui s'est passé directement aussi à Nantes avec les étudiants congolais qui ont été arrêtés. C'est pour moi toute la première fois d'entendre quand même le gouvernement congolais
monter
au créneau pour faire des déclarations dans le sens que la population congolaise qui vit en dehors de notre pays doit être aussi protégée. C'est une chose qu'on a appréciée. Et il y a aussi d'autres choses, par exemple, les coopérations ne doivent pas seulement être économiques. Il y a aussi, par exemple, voir sur la circulation des populations de tous les pays membres signataires de ces accords. Aujourd'hui, par exemple, le pays frontalier de la RDC, on trouve que s'il n'a pas tous les documents qu'il faut pour sécuriser dans tous ces pays-là, si tous les Congolais, si on s'arrête par exemple en Zambie, ils passent des peines terribles. Et c'est dans ce sens-là que je peux demander à notre invité, par rapport à ces accords-là, qu'est-ce qui peut aussi garantir la population concernant le volet de circulation? Sinon, quand on n'est pas dans tel pays, on ne peut pas s'inquiéter par exemple de tel ou tel autre document pour pouvoir te mettre à l'aise pour ne pas subir des rivières de la loi dans ce pays-là. Merci beaucoup.
Je vous en prie, Willy. Nous prenons Confiance qui est à Confiance Kabongo qui est à Kinshasa. Bonjour, Confiance.
Allô, bonjour, Mbote Djambo à tous les okapistes de la Radio de la Paix.
Vous avez la parole, Confiance.
Oui, tout en répondant à votre question, qui est en tout cas vraiment précise, moi je pense que notre plus grand problème, c'est aussi le manque de priorisation hein, de nos besoins et de les ériger en priorité. Ce qui fait mal, c'est que ce sont les dirigés qui voient les besoins primordiaux, tandis que les dirigeants n'ont pas souvent la même lecture des problèmes. J'aurais souhaité que la coopération sud-sud se limite dans le domaine où nous avons seulement des faiblesses, surtout dans le transfert des technologies. Actuellement, s'il m'était donné de décider, personnellement, j'opterais pour la pacification ou la sécurisation, le développement communautaire, bref, un développement durable. Au moins, il est mieux de se fixer d'abord et de se fixer d'abord des domaines dans lesquels on doit coopérer et choisir dans quel domaine nous devons sud coopérer et surtout de ne coopérer qu'avec ceux qui ont connu les mêmes problèmes que nous, mais surtout qui ont fait mieux que nous, c'est-à-dire des gens qui ont connu des problèmes que nous, nous avons aujourd'hui, qui nous demandent de coopérer avec les autres, mais non seulement qui ont connu des problèmes comme le nôtre, mais des gens qui ont réussi avec leur expérience à surmonter ces problèmes et à définir, par exemple, un modèle démocratique, un modèle agricole, un modèle en matière de sécurité. Par exemple, c'est un peu ça. Il y a des pays qui ont connu soit la guerre, soit la famine, soit et ce sont des pays-là qui sont dans le sud, avec lesquels nous devons sud coopérer aussi. Pour moi, j'aurais souhaité afin que nous ne coopérions qu'avec ceux qui ont ceux qui ont fait mieux, quoi. C'est ma façon de voir les choses.
081-890-63-15. Vous avez également la possibilité de nous déposer vos commentaires sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs.
Nous revenons à vous, professeur Sari Blaise Ngoy, pour cette deuxième série des auditeurs. Nous avions suivi Clément qui est à Matadi, qui a parlé d'une politique réelle pour relancer l'économie. Et entre-temps, il y avait une question qui était restée pendante, la question de Jonas, qui parlait de la coopération qui est hypothétique. Alors, quel est l'impact de cette coopération dans un pays qui ne produit rien? Alors, Clément a posé également une question directe à vous, professeur. Quel est le modèle de coopération qui, au fait, est favorable pour le développement de la RDC, hein, il parle soit de la coopération nord-sud ou la coopération sud-sud.
Merci beaucoup. Je commence par cela. Quelle coopération avantageuse? Il ne faut pas parler de coopération sud-sud, nord-sud en termes d'avantages. Il faut plutôt voir quel projet serait avantageux pour la République démocratique du Congo et avec quel acteur de coopération. Si nous prenons coopération nord-sud, est-ce qu'elle est plus avantageuse? Mais parce qu'elle a été critiquée, c'est ainsi que les États ont cru qu'il fallait peut-être envisager la coopération sud-sud. Est-ce que celle-ci elle est avantageuse? Mais nous venons de voir avec vous que tout dépend des cas par cas. La meilleure coopération, c'est celle-ci. C'est celle qui permet, en fait, de transférer le savoir-faire de manière à ce que, au-delà de la coopération, parce que s'il s'agit des projets ayant un temps limité, donc au-delà de cela, que nous soyons nous-mêmes capables de dire, nous sommes maintenant capables de faire ce que les autres nous ont appris à faire. La Chine l'a fait dans le temps avec l'Europe, lorsque la Chine était dans la catégorie des pays du Sud. La Chine a pu envoyer plusieurs gemmes qui sont allées se spécialiser dans plusieurs domaines et qui aujourd'hui font la fierté de la Chine, qui sont revenus et qui travaillent dans plusieurs domaines et qui ont su maîtriser ce qu'ils ont appris ailleurs. Les Congolais, il y en a, sont envoyés et lorsqu'ils retournent, on les ignore totalement. On ne sait même pas qui est spécialiste de quoi et qui se trouve où. Parfois même, certains finissent par retourner en Europe ou alors à faire autre chose. Vous trouverez donc plusieurs experts formés, mais qui finalement ne sont pas utilisés à bon escient en République démocratique du Congo, même dans le domaine de projets de développement. Ce que je peux dire en termes de secteur, donc, la santé, elle est une priorité. La santé, c'est une priorité. L'éducation, c'est une priorité. À mon avis, Mais en même temps aussi, l'alimentation, c'est une priorité. Voilà ce que je peux dire. S'il y a coopération nord-sud ou sud-sud qui tient compte de ses priorités, santé, éducation, alimentation, etc., et qui tiennent compte réellement des besoins réels, eh bien, on atteindrait de meilleurs résultats. Voilà ce que je peux dire. Si contrat léonais, c'est quoi? Ça vient du mont Lyon. Lyon, c'est-à-dire qui prend la part la plus importante. Hein. Et voilà donc d'où est venu le thème de contrat léonais. Lorsque vous êtes partenaire, que vous signez un contrat à deux, à trois, c'est lui qui finalement prend le gros morceau, c'est-à-dire le plus grand avantage. Finalement, il ressemble à un lion. Ainsi, le contrat, le thème léonais est là, est né pour signifier qu'un contrat qui est désavantageux pour un partenaire, c'est un contrat léonais. Et au Congo, on en a parlé de contrats lyonnais, notamment des contrats chinois. Eh bien, nous, en ce qui concerne une coopération hypothétique, ça signifie tout simplement qu'elle ne rapporte pas grand-chose. Oui, c'est vrai, parce que dans la mesure où vous estimez que le Sud peut vous apporter quelque chose, vous vous intégrez dans tous les domaines, mais une intégration qui n'aboutit à rien dans ces conditions-là, eh bien, je vous ai dit que c'est comme si c'était une coopération à la mode. On fait comme tout le monde, on est présent parce que tout le monde est là. Et dès qu'on y retourne, bien, on applaudit, c'est tout. Ça, il a raison que ce soit hypothétique. En ce qui concerne la coopération transfrontalière, elle existe. Il y a, par exemple, pour le Congo, une coopération avec l'Angola, une coopération avec la Zambie, avec un peu tous nos voisins. Elle consiste finalement à libéraliser le mouvement, la circulation des biens et des personnes, mais à condition de respecter finalement les termes de contrat conclus. Ailleurs, ceci appartient finalement à un niveau très élevé d'intégration économique, politique, mais aussi sociale et culturelle. On peut finalement même s'établir dans un autre pays sans qu'il y ait le visa, etc., et exercer un métier. Mais nous autres, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Nous continuons à nous soupçonner. Et donc, il n'est pas encore facile de circuler librement à travers les pays frontaliers et dire, bon, écoutez, je suis là, sinon on vous ramène. Et parfois même, vous êtes suspecté. Même si vous remplissez toutes les conditions, vous n'avez pas toutes les chances d'exercer tel ou tel métier que vous pouvez le faire, par exemple, à Brazzaville, en Angola, etc. Donc, cela existe. Et ces termes de coopération déterminent même dans quelles conditions on peut finalement, si vous voulez, renvoyer un Congolais vivant en situation irrégulière, etc. Ça existe. Mm-hmm. Donc cela est conclu déjà, mais il est question finalement de voir comment est-ce qu'on peut concrétiser, si vous voulez, ce genre de coopération. Parce que souvent, nous sommes, comme nous le disons, nous accueillons tout le monde, alors qu'ailleurs, le Congolais est toujours dit comme véhiculant l'image d'un agresseur, d'un voleur, d'un voyou, etc.
Voilà. Alors, professeur, si vous permettez, on va accorder la parole à cette dernière série des auditeurs. Il y a Jacques qui est à Lubumbashi et Kanda qui est à Kinshasa. Jacques, bonjour, vous avez une minute. Bonjour.
Je vous remercie, mon frère Gérard. Je n'ai pas beaucoup à parler. Tout d'abord, je voulais présenter mes civilités et mes remerciements à votre invité. Il est en train de discuter bien votre débat. Ce que moi je voulais dire tout d'abord, le Congo a connu des problèmes depuis l'indépendance. On nous avait proposé de prendre l'indépendance d'abord politique et économique devait suivre à mi-vers les années 80. Mais par l'égoïsme ou je ne sais pas dire vantardise, nous sommes partis vite au besoin. Vu la grandeur du Congo, je la classe comme une belle femme qui cherche à se maquiller, qui touche l'argent par-ci par-là, il a autant de maris qui viennent pour l'épouser, il se fige, il dit que je veux celui-ci, moi-même je conviens, on me mariera par peine. C'est ça notre problème. Qu'est-ce que je propose? Pour le Congo, comme le président vient de faire son discours actuel, où il demande de mobiliser des énergies et des intelligences congolais pour avoir une sortie pour faire le mieux. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut arrêter parce que la tête est pourrie. Il faut arrêter, se mettre ensemble dans une consensus inclusif, mettre les têtes du Congo que lui cherche actuellement, pour mettre au point quel contrat nous l'avons signé comment, mettre à nu tous ces contrats, qu'est-ce que nous gagnons, qu'est-ce que nous perdons. Voilà ce que je peux dire en mes mots, sans trop de commentaires là-dessus. Je pense que je suis tout écouté.
Merci beaucoup, Jacques, d'avoir appelé de Lubumbashi. Kanda, vous êtes à Kinshasa, on va terminer avec vous.
Allô.
Merci, bonne arrivée sur les ondes de Radio Kapi. Kanda, vous avez la parole.
Merci.
Voilà, vous êtes là, il y a un retour à l'antenne, hein, ça fait un mauvais retour, donc les effets Larsen là. Si vous pouvez peut-être vous éloigner un peu de votre poste de récepteur.
Oui, je l'ai fait.
Voilà. Ou carrément éteignez-le.
Oui.
Voilà.
L'intervention vous... qu'elle fait.
Oui, allez-y rapidement.
Par rapport à ce que nous disons, ou à ce que vient dire notre invité, il est bien d'adhérer à n'importe quel organisme. Mais il faut savoir que ce que nous produisons, nous, sur le marché mondial. Les Congolais ne produisent rien du tout. C'est-à-dire seulement pour adhérer, non, pour configurer, non, là, ça ne va pas. Ça ne marche pas quelque part. Il faudrait savoir pour présenter quelque chose devant le monde entier, pour adhérer dans n'importe quel organisme, comme vous le faisons là. Nous sommes toujours dans ce système-là, on finira toujours par demeurer de recevoir, et non, on ne produit rien du tout sur le marché mondial. Et ce n'est pas du tout important. Il faut adhérer pour présenter aussi ce que nous avons. C'est un peu ça mon intervention.
Merci beaucoup, Kanda. 081-890-6315. Pour participer en direct à nos émissions Parole aux auditeurs, vous pouvez aussi, à chaque sujet, déposer vos commentaires sur notre page Facebook.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Kapi.
Professeur Sari, vous êtes avec nous, vous avez suivi depuis le début les auditeurs qui ont réfléchi ensemble avec nous par rapport à ces sujets, quel regard qu'ils portent sur la coopération au développement entre la RDC et les autres pays du Sud. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Merci beaucoup. En conclusion, c'est que on n'échappe pas à la coopération, tous les pays coopèrent. Cela est la caractéristique même, si vous voulez, de vivre ensemble. On ne peut pas vivre en autarcie aujourd'hui, on coopère. La grande leçon que nous pouvons tirer, c'est que nous devons en fait prendre du recul et dire est-ce que nous avons échoué ou pas. Malheureusement, beaucoup de nos responsables disent toujours qu'ils ont réussi. Qu'ils ont réussi, ça va, ça va. Et tant que nous aurons cette idée de croire que tout va bien, eh bien, nous continuerons à nous réunir, à nous plaindre, etc. Ayons le courage, c'est ce que je voulais dire aux responsables politiques, ayons le courage de dire, ça ne va pas, on fait quoi, et avec qui et avec quels moyens. Il est vrai que la coopération ne signifie pas la voie du progrès, la coopération conduit au développement, à la croissance, etc. La coopération est définie comme, si vous voulez, la voie, le canal qui vient appuyer ce que nous faisons nous-mêmes de l'intérieur. Et pour que nous-mêmes nous puissions maîtriser, si vous voulez, nos paramètres de développement, de la croissance économique, je viens de le dire, nous devons compter sur les fils du pays. Il y a des experts dans tous les domaines. Le plus grand problème dans notre pays, c'est de savoir qui fait quoi et qui devrait faire quoi. Voilà ma conclusion.
Oui, ben il y a un auditeur qui avait proposé, au fait, c'est s'inquiéter, hein, du fait qu'on a souvent un budget de consommation au lieu d'avoir un budget de développement.
Bien, c'est exact. Le budget de consommation commence d'abord par le budget de l'administration. Le budget aussi des institutions politiques, etc. Quand vous le voyez, il prend déjà plus de 50%. Et ensuite vient le budget de fonctionnement et le budget de salaire. C'est vrai, quand vous analysez les biais consacrés, par exemple, à la santé, à l'agriculture, à l'éducation, ça représente 0,0 quelques de pourcentage. Et ces 0,0, c'est quelques pourcentages. Or, ce sont les pourcentages des 3 milliards de dollars, tout simplement. Vous vous rendez compte que tout le budget annuel, 3 milliards. Recettes, dépenses, hors les aides extérieures qui sont de l'ordre de plus ou moins 3 milliards aussi. Donc nous avons déjà, à travers cette fameuse coopération, nous attendons la moitié du budget national. Et donc le Congo, avec autant de besoins, avec ses plus de 60 millions d'habitants, si nous prenons nos propres recettes, nous les divisons par la population, c'est-à-dire que chacun de nous a peut-être des francs ou 10 francs congolais par année dépensé pour lui. Voilà le problème. Et donc, il est vrai, on n'a pas jusqu'à présent pensé à accroître les moyens consacrés aux vrais problèmes de santé, de développement, de démographie, de l'éducation. Non. Cela est dû à quoi? Cela est dû à quoi? Eh bien, dans d'autres pays, vous le savez vous-même, que la conception des budgets part de la base vers le sommet. Tandis qu'ici, les budgets sont conçus dans les cabinets ministériels. On ignore complètement ce qui se passe sur le terrain. Les budgets sont conçus par l'imagination dans les cabinets ministériels.
Voilà, professeur, on s'arrête là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, professeur, pour parler de ce regard que nous portons sur la coopération au développement entre la RDC et les autres pays du Sud. Nous prenons rendez-vous avec vous très prochainement. Nous disons également merci à Paul Badianiam qui a assuré la mise en onde de cette émission. Titi Poutou et Pierrot et Lamégi l'ont réalisé. Et Gilles Lungembo vous l'a coordonné et présenté sous la supervision de Nicole Ngaka. Réécoutez cette émission sur www.radiocapi.net.